Vous êtes avec SBS French.
You're with SBS Radio.
Bien aujourd'hui dans les studios à Melbourne, on va parler d'alimentation avec les enfants. On a Marie-France Laval avec nous dans les studios. Bonjour.
Bonjour.
Alors je crois que c'est votre spécialité. On appelle ça en anglais les fussy eaters. C'est quelque chose de très australien. Et vous êtes très anglophone en tout cas, on va en parler, parce qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler de ça en France. C'est une spécialité pour vous de se concentrer sur bien s'assurer que les enfants mangent correctement, bien, et qu'ils aient tout ce qu'il leur faut en fait.
Alors, c'est une spécialité, effectivement. On parle de refus alimentaire en France. Justement, j'essaie d'éviter de porter un jugement sur l'alimentation des enfants et je parle plutôt de manger à la française dans la convivialité.
Parce qu'on a beaucoup, alors il y a eu beaucoup d'articles les derniers temps sur les enfants français sont mieux élevés que les autres, les enfants français sont ainsi. Bon, moi j'ai vécu en France, il y a aussi des enfants plutôt mal élevés aussi. Enfin, il y a tout, faut pas généraliser, mais c'est vrai quand on vient à tout ce qui est nutrition, l'approche elle est presque opposée, complètement différente.
Alors effectivement, il y a beaucoup de livres qui sont sortis et qui ont été écrits par des journalistes, souvent américaines, qui ont vécu en France et qui ont complètement changé leur façon d'aborder l'alimentation avec leurs enfants parce qu'elles se sont rendues compte qu'en France, on arrivait à de bons résultats. C'est-à-dire qu'on arrivait à faire en sorte que nos enfants s'assoient à table à des horaires réguliers et à faire en sorte qu'ils mangent une variété assez importante d'aliments.
Sans forcément repeindre les murs.
Voilà. Alors c'est vrai que ce n'est pas le cas chez les anglo-saxons. On a plus de difficultés ici en Australie, plus de difficultés aux États-Unis. Et au départ, aux États-Unis, on a vraiment sorti l'enfant du contexte familial pour tenter de modifier son comportement, ce qui a donné finalement de nombreuses études, notamment par des psychologues, et de nombreuses techniques qui ont visé à gérer l'enfant en dehors de la famille. Puis on s'est rendu compte que finalement c'est beaucoup plus complexe que ça, l'acte de manger, et on s'est rendu compte que finalement dans la culture française et dans d'autres cultures européennes notamment, on mange ensemble dans la convivialité et ça, c'est la clé du succès.
C'est en dehors du cliché, parce qu'il y a ce cliché de la famille, du repas, des trois repas par jour en France. Il est midi, on mange à midi, pas à midi et demi, on mange à midi. Ça va un peu plus loin que le cliché.
Alors, ça va un peu plus loin que le cliché, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce modèle-là, et il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce modèle-là, notamment Claude Fischler, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le sociologue, qui a montré, comme d'autres, qui a montré que, justement, ça c'était c'est un cliché peut-être, mais ça marche bien. En France, on mange à des horaires fixes, si on regarde les statistiques, tout le monde est à peu près à table à midi, tout le monde est à peu près à table le soir pour le dîner. Eh bien, on a quand même, du coup, des taux d'obésité bien moindres par rapport aux États-Unis où on mange à toute heure. Et on a une tendance, finalement, dans le monde anglo-saxon à considérer que l'alimentation s'opère, finalement, autour de la nutrition. C'est-à-dire que la nutrition, l'objectif nutritif dans l'assiette est très important. On a 100 ans de diététique aux États-Unis et finalement, on a pas mal de problèmes. On ne cesse de dire aux gens comment il faudrait qu'ils mangent. Et on a oublié qu'autour de ça, il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte, notamment la faim et la satiété. Donc en France, on sait encore manger parce qu'on est très régulé finalement. On sait manger avec son appétit et on sait s'arrêter une fois qu'on a suffisamment mangé.
Et pendant longtemps, les anciennes générations, il y avait cette idée de tu finis ton assiette ou tu sors pas de la table. Pour beaucoup d'enfants, c'était vraiment pousser l'enfant à finir ce qu'il avait dans l'assiette et éviter le gâchis, je pense à tout ce qui est après-guerre. On a évolué quand même de ça en France.
Heureusement, on a évolué et ça c'était... C'est pas forcément à généraliser cet exemple-là. En France, on est, c'est vrai, sur un mode de partage. Donc, on met tout le monde à table. On attend. On a un certain nombre d'exigences par rapport aux enfants et notamment par rapport à la politesse vis-à-vis de ce qui est servi. On avait, c'est vrai, peut-être parfois quelques exigences par rapport pour éviter le gaspillage, mais c'est la même chose chez les anglo-saxons. Mmh. On a certainement un modèle en France qui permet quand même, parce qu'on met les plats au centre de la table, qui permet un petit peu d'ignorer ce qui n'est pas mangé ou ce qui n'est pas goûté. On est sur un mode finalement qui est assez démocratique. On propose quelque chose aux enfants et globalement, dans notre mode de fonctionnement actuel et certainement ces 20-30 dernières années, on n'attend pas des enfants qu'ils finissent leur assiette. On a peut-être plus d'exigences, effectivement, donc, par rapport à la politesse vis-à-vis des aliments. Et on peut parfois demander aux enfants de goûter, mais on n'est pas, on n'insiste pas. L'approche, finalement, qui nous fait considérer l'assiette purement d'un point de vue des nutriments, exige de nous qu'on insiste pour que nos enfants mangent tel ou tel légume ou ses protéines. On parle beaucoup chez les anglo-saxons, en Australie notamment, de son assiette en termes de macronutriments. Donc on regarde nos protéines, nos lipides.
Il y a même des, enfin même pour les adultes, il y a des restaurants qui disent choisissez votre protéine. On ne dit pas choisissez votre viande, on dit choisissez votre protéine.
Voilà. Je trouve que c'est problématique.
Oui, merci.
Oui, oui, c'est problématique parce que là on sort du plaisir de manger et le plaisir de manger passe par le goût, la convivialité, la compagnie avec laquelle on déguste notre alimentation. Quand on est vraiment à cibler des nutriments, à mon avis, on perd et on va vers des problèmes. Alors, notamment avec les enfants qui sont dans le refus alimentaire, ça c'est garanti, je le vois tout le temps.
Tous les jours.
Mais pardon, j'allais raconter cette anecdote. J'étais à un festival de musique l'an dernier avec mon mari. On va chacun chercher à manger. Il revient vers moi, il me dit, voilà, j'ai trouvé ça, ça a l'air bon. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, des protéines.
Ouais.
Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Et il était incapable de me dire ce que c'était. Et j'étais aussi incapable de dire ce que c'était finalement.
D'accord.
Si on ne reconnaît pas son aliment, eh bien, on doit se poser des questions.
Alors vous, ça va vous faire hisser les poils, ou hisser les poils sur les bras quand vous voyez tous ces espèces de plats modernes où on essaye de déguiser les légumes dans un tel, dans une telle forme ou dans un tel autre goût pour s'assurer que les enfants aient leur apport entre guillemets nutritif, mais ça n'a plus du tout la forme d'un petit pois ou d'un haricot vert.
Oui, alors ça, c'est sûr que quand on fait mon métier, on sait très bien que les enfants ne sont pas dupes. Ils comprennent très bien qu'on essaie de leur faire manger quelque chose, qu'on essaie d'atteindre un objectif. Et ça ne marche pas avec les enfants qui sont extrêmement difficiles ou dans du refus alimentaire extrême. Donc, on sort tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la cuisine, parce que nous, finalement, on sait très bien qu'un aliment, on va le consommer parce qu'on a du plaisir à le manger. On peut prendre n'importe quel patient à l'hôpital aujourd'hui et aller le voir et lui dire de consommer tel ou tel aliment pour sa santé. Je vous garantis qu'il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas d'acte de manger. La personne ne mangera pas.
Donc, c'est très important, dès le départ, de faire découvrir les légumes, par exemple, si on prend simplement le cas des légumes ou des poissons, ou même des viandes, aux enfants, sans essayer de les entourlouper. Faut leur faire comprendre que c'est bon pour eux, mais c'est aussi surtout très bon à manger, gustativement.
Voilà. Et finalement, on parle beaucoup d'exposition aux aliments répétée, d'une exposition répétée. Mais c'est vrai que quand on est sur du gustatif, quand on essaye de trouver ce qui va faire que tel ou tel aliment est beaucoup plus, alors, en anglais, palatable. Mm-hmm. Aidez-moi, je savais que ça allait m'arriver, qu'elle est forcément...
C'est pas grave, on va l'accepter, on fait un programme.
Voilà, mais donc il y a forcément une façon d'accommoder un aliment qui va mieux le faire passer. Est-ce qu'il faut mettre un petit peu de crème? Un peu de beurre dans les épinards. J'étais en France récemment et j'ai tenu un journal de ce que mangeaient des enfants dans un centre, dans une école qui accueille des enfants autistes. Les enfants autistes, ce sont peut-être les plus réputés comme étant ceux qui sont les plus sélectifs alimentairement. Et ces enfants en France... qui ont des déficits importants, qui sont non-verbaux, donc qui ne savent pas s'exprimer verbalement, eh bien, ces enfants mangeaient notamment du fenouil à la crème.
Et je me dis, mais... Ça serait bon, ça.
Voilà, et ils avaient l'air de... Alors, c'était difficile de savoir s'il y avait vraiment un plaisir de manger, mais enfin, ça avait l'air de plutôt bien passer. Jamais, 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 je ne verrai ce genre de plat ici, chez des enfants autistes, j'en suis certaine, et certainement pas aux États-Unis non plus. Donc, en France, on passe par le goût, par la convivialité, par le plaisir de manger ensemble.
Je trouve ça très intéressant quand vous parlez du fait qu'on amène le plat à table. Parce que c'est vrai que dans une famille française, moi j'ai toujours le souvenir qu'on... la maman ou le papa cuisine quelque chose, mais on amène le plat à table et on sert à table. Dans les familles anglo-saxonnes, de ce que j'ai pu en voir, c'est très souvent on amène les assiettes déjà déjà rempli, déjà chargé de... Donc en fait, on ne voit pas le résultat de la cuisine. Le résultat de la cuisine, il est juste dans le petit carré ou le petit rond de l'assiette, mais on ne voit pas le plat qui est partagé par tous. Donc vous, vous pensez que c'est aujourd'hui très important dès le départ?
Dès le départ. Alors c'est ce qu'explique très bien Claude Fischler, en fait. Il y a d'un côté, chez les anglo-saxons, l'assiette anglaise, et l'assiette anglaise nous dicte finalement que certains nutriments doivent être présents, donc nos protéines,
les fameux
lipides,
meat and two veg.
Voilà, ou free veg et, ouais. Les carbs, ouais. Hein, pour parler anglais.
Pommes de terre et petits pois.
Voilà, donc cette assiette anglaise est basée sur la nutrition, on est obligé d'obtenir certains nutriments pour être en bonne santé. En fait, le service à la française, qui date de Louis XIV, n'est pas du tout basé sur le même modèle. On propose un certain nombre de plats. On sait que parmi ces plats, quand même, l'enfant... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut cuisiner trois plats, hein, mais parmi les composants du repas, on sait que l'enfant va quand même réussir à manger quelque chose. Mais pendant ce temps-là, il va être exposé à une certaine quantité d'aliments qu'il ne connaît pas forcément. Et cette exposition répétée le familiarisera. Il verra d'autant plus ses parents savourer cet aliment, peut-être l'accommoder autrement, ajouter effectivement de la crème ou autre chose. Mais c'est par cet effet du modèle parental qu'il va apprendre et développer sa capacité à accepter une grande variété d'aliments.
Est-ce que de temps en temps, vous vous sentez pas un peu comme Don Quichotte face à la malbouffe à l'américaine, à l'anglo-saxonne, dans un pays comme l'Australie? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment, vous faites vraiment du progrès dans famille par famille?
Alors, pas du tout. Puis alors, je trouve qu'en Australie, en plus, on a de très, très bons aliments de base pour préparer la cuisine. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la cuisine en Australie. On peut aller dans n'importe quel café manger quelque chose de délicieux, vraiment. J'adore la façon dont les cafés abordent l'alimentation en Australie. Après ça, justement, moi, j'essaie de sortir de ce discours moralisateur sur l'alimentation. Je n'ai que des parents qui me disent qu'ils veulent que leur enfant mange sainement, mais ça prend une tournure, vous voyez, ça prend cette tournure toujours de revenir aux nutriments, et j'essaie de les faire sortir de ça et de les faire revenir à table. J'ai beaucoup de familles dont les enfants, finalement, ne mangent pas à table, tout simplement avec leurs parents. Des bébés, par exemple, qui apprennent à manger face à un écran. Or, on n'apprend pas à manger face à un écran, on apprend à manger face à un adulte, un humain, qui nous montre en fait comment il faut faire. Et donc, voilà, j'évite absolument d'avoir un rapport à l'alimentation qui soit moralisateur. Donc, je n'utilise pas ce genre de thématique avec les parents avec lesquels je travaille.
D'accord. Vous parlez beaucoup des enfants, parce que vous travaillez intégralement ou presque intégralement avec des enfants, mais est-ce qu'on peut aussi transposer ça à l'autre bout du spectrum, les personnes âgées, très âgées, qui aussi, eux, commencent à partir d'un certain moment à avoir un refus également de la nourriture et on veut manger quelque chose qui est convenient, entre guillemets, je vais le dire en anglais, ou quelque chose de rapide, de facile, on veut plus se prendre la tête avec cuisiner, principalement si on est tout seul. Est-ce qu'à l'autre bout du spectrum, il y a aussi un problème?
Alors, je me suis beaucoup intéressée justement à l'alimentation chez les personnes âgées. C'est très problématique, mais on fait exactement les mêmes choses qu'avec les enfants. D'accord. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas imposer des quantités trop importantes. Donc, si on sert un plateau, par exemple, alors j'imagine hein, des personnes âgées qui sont dans une institution, par exemple, on ne va pas leur servir un plateau de mets très important. On va servir des petites portions pour éviter que ce soit trop... presque une agression en fait. Hein. Si on met trop à manger sur le plateau, ces personnes vont être dans un refus systématique.
Donc ça rend le refus plus facile.
Ça rend le refus plus facile. Donc du coup, on essaie de s'adapter exactement de la même façon qu'avec les enfants. On réduit les quantités, on essaie de présenter quelque chose et de le présenter de la meilleure des façons. Après que des personnes âgées qui sont à la maison n'aient plus envie de cuisiner et qu'on leur apporte des repas tout faits, pourquoi pas, du moment qu'on reste sur quelque chose qui est goûteux, ce qui est très difficile dans la restauration collective en fait.
Mmh. Une question que peut-être tous les parents se posent aujourd'hui, mais peut-être parce que bon, moi ça fait aussi un petit moment que je suis parti de France, donc ça a peut-être beaucoup changé, mais on sent que le positionnement d'entre guillemets ce qu'on appelle la malbouffe dans des pays anglo-saxons, donc encore une fois je vais mettre l'Australie dans le paquet parce que je suis d'accord avec vous, en Australie on peut très bien manger un peu partout et c'est assez accessible, on peut aussi très mal manger assez rapidement, c'est qu'en fait si on sort un peu dans quelques minutes en dehors de Melbourne, c'est quand même très facile d'avoir accès à de la malbouffe, un fast-food X, Y ou Z. Chose qu'on ne voit pas forcément tout de suite en France. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une approche qui est systématique de la part de certains parents? Comment on combat ça, en fait? Comment des parents peuvent combattre, ah ouais, parce que c'est des milliards de dollars de marketing contre papa et maman?
Ah, c'est très intéressant, effectivement, ce qui se passe en dehors des grandes villes australiennes. Et je suis d'accord, lorsque je me promène un petit peu, je constate qu'effectivement, il y a vraiment une malbouffe. Eh bien, j'ai presque l'impression de faire vieux jeu quand je dis que, et que certaines études montrent que, c'est par le retour derrière les fourneaux, et j'entends pas que pour les femmes, hein, pour les hommes aussi, l'apprentissage de la cuisine, le retour à des repas partagés, c'est là qu'est la clé en fait. Alors on a montré apparemment aux États-Unis que, et ça c'est Michael Pollan qui en parle le mieux, c'est un écrivain, un chercheur sur l'alimentation, et on a montré qu'une femme aisée qui ne cuisine pas a de moins bonnes perspectives vis-à-vis de sa santé qu'une femme pauvre qui cuisine. Donc encore, et on a montré aussi, pareil, on a fait une étude à Marseille avec des jeunes hommes, on a montré que justement le simple fait d'apprendre la cuisine, c'était associé à une meilleure perspective au point de vue de la santé.
Et aujourd'hui, ça se passe beaucoup dans les écoles françaises, il y a les journées du goût, on leur apprend, toutes les semaines, il y a des approches par rapport à la nutrition, mais dans le bon sens du terme. Il y a également les cantines scolaires qui sont aussi un élément clé dans l'éducation, parce qu'en fait on le voit ici en Australie, on a tous des enfants, tous ceux qui ont des enfants scolarisés, on a même beau être dans une école française, il n'y a pas forcément une cantine, et que bon, bah, manger des sandwichs, ça complique un peu les choses, même ne serait-ce que les manières à table. Donc est-ce que justement la présence de cantines scolaires par exemple dans l'univers pourrait être aussi un élément qui pourrait aider à satisfaire certains besoins justement?
Alors la cantine scolaire, en France, c'est une merveille, il faut dire ce qui est. C'est un endroit où on propose des plats variés et on a des diététiciens en aval qui prévoient les repas, mais quand même on est tout le temps sur des caractéristiques gustatives. On veut que les enfants prennent du plaisir à manger. Et ça, c'est formidable. Et on a des enfants qui mangent une variété d'aliments qu'ils ne connaîtraient pas à la maison et qui apprennent à manger ensemble. C'est pour ça qu'en France, finalement, on n'est pas des super parents, mais on a surtout une culture et on a des avantages, je dirais, qui font que nos enfants apprennent à s'alimenter de façon très variée. Et en Australie, malheureusement, c'est très problématique. On le voit, il suffit de passer à côté de n'importe quelle école à l'heure du repas, vers 13h, pour voir des enfants qui sont assis dans l'herbe en train de pique-niquer. On ne peut pas très bien manger de cette façon. Ça, c'est une évidence.
Ça retire même le plaisir du pique-nique. Parce qu'en fait, je me souviens à l'école, nous, quand on avait un pique-nique, c'était exceptionnel. Là, aujourd'hui, ils font des pique-niques tous les jours. C'est plus exceptionnel. C'est la normalité.
Voilà, il suffit simplement de penser au fait que quand on est en pique-nique, en mode pique-nique, on s'assoit par terre. Alors ça, une fois de temps en temps, ce n'est pas désagréable. Mais quand on est assis par terre, on est mal soutenu, on est mal positionné pour manger. Parce qu'on est bien trop occupé à chercher une position confortable, à tenter de se tenir droit. Parce que pour manger, il faut pouvoir respirer. C'est le besoin numéro un. Et je regrette de le dire, mais quand on est assis par terre, on est mal installé.
Et prendre son temps. On n'a pas juste 15 minutes pour manger. Il faut prendre son temps
pour manger.
Et ça,
il faut comprendre les enfants. Hein. Ils sont à l'école, ils ont peu de temps. On n'est pas à la cantine. Il n'y a pas une place assise quelque part. Donc, ils préfèrent effectivement aller jouer. Puisque finalement, c'est peut-être plus confortable d'être debout et de bouger.
Absolument. Vous aviez deux, trois conseils comme ça à donner avant de partir à des parents qui se posent des questions. Est-ce que déjà le fait de se poser des questions, on a déjà fait un grand pas vers comprendre la nutrition de l'enfant?
Alors,
il faut se poser les bonnes questions.
Il faut se poser les bonnes questions, il faut réussir à sortir un petit peu de ces contextes justement, regarder ce qu'une autre culture est capable de réussir en termes d'alimentation, se transposer dans une autre culture, ça donne vraiment une idée de la façon dont nous mangeons et dont elle est liée finalement à notre culture d'origine. Cette façon de manger est aussi liée à notre culture familiale, donc on peut aussi se poser des questions sur la façon dont on aborde l'alimentation avec ses enfants à la maison, dont on exige ou pas qu'ils mangent certains aliments. Il faut avoir un petit peu un mode démocratique à table. Donc on en a parlé, mettre les plats au centre de la table et laisser les enfants finalement découvrir, être exposés à une variété alimentaire importante pendant des années qui sont assez formatives, c'est-à-dire qu'entre 0 et 6 ans, on a vraiment une possibilité d'introduire de nouveaux aliments. Donc je dirais aux parents qui nous écoutent de réfléchir à cela et peut-être de faire une liste de ces aliments qui leur sont importants peut-être culturellement. Je citerai simplement l'anecdote des escargots que j'ai fait découvrir à mes filles très tôt parce que je voulais qu'elles mangent des escargots pour Noël. Eh bien, elles ont maintenant 20 et 18 ans. Si je ne prépare pas d'escargots à Noël,
problème.
Je me fais remettre à ma place. Donc voilà, est-ce qu'on a des aliments? Si on est aborigène, on va apprendre à manger du witchetty grub. Donc, est-ce qu'il y a des aliments auxquels on tient et est-ce qu'on veut que nos enfants les connaissent? Dans ce cas-là, il faut les exposer. On ne peut pas limiter nos enfants aux limites qu'eux-mêmes ont vis-à-vis des aliments. Sinon, pour utiliser une expression qui, ma foi, est utile ici, on n'est pas sorti de l'auberge.
Tout à fait. J'ai une toute dernière question avant qu'on y aille. Quand un enfant a faim, en plein milieu des repas, vous parlez, on a essayé d'avoir 3 repas, matin, midi, soir, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Un enfant a faim à 14h, 15h. La notion de l'enca, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout la même approche en France qu'on puisse avoir dans un pays, encore une fois, anglo-saxon. Et encore, à l'intérieur des pays anglo-saxons, il y a les Britanniques, il y a les Américains, il y a les Australiens qui sont même tous différents des uns des autres. Comment on gère un petit creux?
Alors
comment ça se gère un petit creux?
On le gère. C'est-à-dire que, et on sait très bien faire ça en France et on peut le faire ici, avec des horaires assez spécifiques. C'est-à-dire qu'on veut avoir au moins 2h30, 3h entre les repas. Donc à partir de ce moment-là, si on prend son repas à 13h, on peut mettre avant 13h et après 13h des pauses snack ou goûter. Et puis en aval et en amont, un dîner et un petit déjeuner. Donc on peut très bien le faire en ayant des marges, finalement, un temps suffisamment important pour que la faim soit présente. Et lorsqu'on le fait de façon sérieuse, on y arrive très bien et on se met, on met en route une hormone qui s'appelle la gréline et qui sera présente au temps des repas et qui fera qu'on a faim au temps des repas. Donc ça marche tout seul, ça se règle très bien. L'erreur, ce serait de faire manger les enfants à toute heure parce que finalement, ils n'ont plus faim au temps des repas. Et ça, c'est une erreur que je constate très souvent.
Absolument. Merci, Marie-France Laval.
Merci, Christophe.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.